repérer la poésie comme si elle n'était pas d'ici. Sur la rocade jusqu'au rond-point, se dire que dans chaque magasin, il y a des gens qui ratent leur tête à bosser en se cabossant, comme si on n'avait plus le temps de rendre certain ce qui peut être. Vive, que vive la vie. Et si les hommes n'étaient pas nés, que les anciens n'étaient pas morts, comme si Clovis n'eût rien cassé et que Baudelaire écrive encore. Que vive, que vive la vie. Même si Roland n'est pas Bernard, un le berger, l'autre la musique, un les vipères sous les faillards, l'autre les guitares électriques, il donne la vie à la vie. Quand l'assassin viole et saccage, leur force détient la modestie ou bien la gloire des orages. Faut que ça vive, que vive la vie. Il faut laisser aux gens l'espoir et confier la paix à la paix, comme de la lumière jusqu'au soir. Des vallées sombres au clair sommet. Fleurs des champs au grand bouquet.
Regarde bien, disait l'Indien, tu as des racines aux pieds. Regarde bien, c'est pas pour rien, t'empêche pas de marcher. Tu as besoin d'eau, tu as besoin d'air, tu as besoin de la terre. Tu as besoin du bras de ton frère et des yeux de ta mère. Ni le souffle du vent, ni le chant des rivières ne sont colliers à vendre ou à jeter. Le rocher, l'arbre, le genêt, l'homme, l'oiseau, la chenille. La chaleur du corps du poney sont tous de la même famille. C'est pas toi qui es possesseur, c'est toi qui appartiens. Tu as besoin du cœur de ta sœur, comme elle a besoin du tien. Ni l'enfant à venir, ni l'esprit de nos pères ne sont colliers à vendre ou à jeter. « Regarde bien, disait l'Indien, tu as des racines aux pieds. Regarde bien, c'est pas pour rien, t'empêche pas de marcher. Le destin demeure un...
Eline van Kartela, malık veren işemli. Eline van katela malık veren işem. Elin çeker serker bela mala bağışım lani. Lişem 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 li malık veren işem. Lişem 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 li mala bağışım lani. Çeker serker bela mala bağışım lani. Lişem 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 li malık veren işem li. Lişem 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 li mala bağışım lani.
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry, avec Erwan à la réalisation. Nous devions être ce mois-ci en entretien avec Olivier Appert pour une anthologie de la littérature carcérale de Charles d'Orléans à Charlie Bauer, à l'ombre, sorti en 2023 aux éditions Le Temps des Cerises. Cela n'aura pas lieu car Olivier m'a appelé hier et il est cloué au lit. Donc on annule cette partie de l'émission. Par contre, pour notre plus grand plaisir, Cyril Latour est parmi nous pour le petit roman « Et puis viennent les femmes, et puis viennent les hommes » sorti aux éditions Lunatique en 2023, ainsi que pour le livre de poésie « Je veux dire » sorti aux éditions Jacques Brémond en 2023. Je vais vous expliquer, parce que c'est un peu particulier cette émission, on a dû la chambouler au dernier moment. En première partie d'émission, il y aura, comme je fais toujours, parce que moi je sépare pas la vie de l'œuvre d'un écrivain, contrairement à certains même de mes amis ou de mes amies qui séparent l'œuvre et l'homme. Moi je sépare pas, donc il y a toujours la partie biographie. Après il y aura, on va passer au petit livre d'amour de Cyril Latour. Et puis viennent les femmes, et puis viennent les hommes, sorti aux éditions Lunatique. Et en troisième partie d'émission, on passera au livre de poésie « Je veux dire » sorti aux éditions Jacques Brémond. Mais là, contrairement à d'habitude, ce ne sera pas des questions que je poserai parce que je n'ai pas pu les improviser au dernier moment. Ce sera simplement, on va passer une lecture et Cyril nous expliquera ça le moment venu. Et il y aura 2-3 questions de présentation du livre, dont une petite lecture de la préface, parce que ce livre est assez particulier, donc il explique assez bien dans la préface. Donc voilà, donc je propose que nous commencions par les questions biographiques. Cyril Latour, vous êtes né en 78 à Paris. Avez-vous grandi à Paris? Par où êtes-vous passé? Où avez-vous habité? Question personnelle.
Très bien. D'abord, bonjour, merci Thierry de me recevoir une nouvelle fois. Parce que votre fidélité me touche beaucoup. Alors, je suis né à Paris, j'y ai vécu 3 ans avant que ma famille ne s'installe en Bourgogne, à Dijon. Et ensuite, on est revenu en région parisienne, cette fois-ci en banlieue, dans le 92, banlieue sud, banlieue plutôt propre, où je suis resté jusqu'à mes études. Mes études, je les ai faites à Paris. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, j'habite en banlieue nord, à Pantin.
D'accord. Avez-vous évolué dans un milieu familial proche de l'art ?
Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Enfin, en tous les cas, qu'il y avait une sensibilité. Voilà. Je sais que c'est peut-être une question que vous m'avez déjà posée, enfin, ou qui reviendra peut-être. C'est, est-ce que j'étais entouré de livres ?
Bah oui, ça va venir.
Je sais. C'est une question qui m'avait beaucoup intrigué la première fois que vous me l'aviez posée. Parce qu'au fond, je crois que je n'en avais pas tout à fait pris conscience de la chance que j'ai eue de grandir effectivement entouré de livres.
Par exemple, chez moi, il n'y avait aucun livre.
Voilà, c'est ça,
je me souviens. Il y avait nous deux et je ne sais plus quoi pour ma mère, et deux, trois livres policiers pour mon père. Mmh. Mais aucun livre. La bibliothèque que j'ai eue, c'est moi qui me la suis construite. Les livres Bibliothèque Verte, Les Six Compagnons au début, ce genre de livres.
Voilà, ouais.
Mais on m'a mis des étagères en fer dans la chambre. On les a vissées, quoi. Ouais.
Non, c'est vrai que moi j'ai eu ce privilège, c'est vraiment un privilège. Et en même temps, bah, comme tout privilège, moi j'en ai pas eu conscience, et je suis pas sûr d'avoir forcément épuisé, enfant, adolescent, la bibliothèque familiale. Le goût de lire, le plaisir de lire m'est venu en fait plutôt après, en fait, disons à la fin du lycée, en fait. Voilà, jusque-là, je lisais des livres. Ou disons, la lecture était plutôt associée à un travail scolaire, à une obligation scolaire, etc. Et c'était pas du tout du côté du plaisir. Le plaisir, je l'avais dans les bandes dessinées. Voilà, c'était plutôt.
Bah voilà, c'est important, ouais, c'est important. Lecture.
Mais c'était pas le cœur de la bibliothèque familiale. C'était pas les BD.
Bah, ma question, je la pose, mais c'était ça que je voulais vous dire. Aviez-vous accès, enfant, adolescent, à une bibliothèque familiale ou municipale ? Aviez-vous alors accès à tous les livres que vous aviez envie de lire ?
Bah, justement, c'est ça qui est terrible. J'ai honte de le dire, mais je crois que je...
Il n'y a pas de livre interdit ?
Non. Mais non, puis je crois que j'avais pas de notion que je pouvais avoir envie de lire ces livres, enfin, ou qu'ils pouvaient m'être adressés. Il y avait une grande variété de livres chez mes parents. C'est plutôt après que j'ai découvert, je me souviens d'être parti en vacances, mais plutôt déjà 18 ans, quoi, avec des Dostoïevski qui étaient à mon père dans des éditions en cuir reliées, des très beaux livres. On aurait dit presque une sorte d'objet un peu mystique, comme une sorte de petite bible, et donc sur du papier très fin. C'était pas du papier Pléiade, mais jusque là j'avais jamais eu la curiosité.
Et qu'est-ce que ça a provoqué en vous, Dostoïevski par exemple?
Oh bah, ça a été quand même un grand choc. Oui, ça a été un grand choc.
Vous mélangez pas les personnages?
Totalement.
Comme il y a plein de noms différents pour le même personnage.
Totalement.
Comme et moi, puis... comme tout le monde, quoi. Ouais.
Totalement. Et puis je crois que ça a été un fantasme. D'accéder à quelque chose que je comprenais fondamentalement pas, en fait, et qui ne s'expliquait, enfin, disons, l'énigme de cette époque, de cette écriture, de ces personnages, elle n'est jamais résolue, elle s'épuise jamais entre Crime et Châtiment, les frères Karamazov, les idiots, enfin, j'ai pu comme ça en enchaîner, en lire beaucoup. Et l'autre révélation à l'époque, c'était Kazantzaki. Ça aussi, c'était dans la bibliothèque familiale. C'était Kazantzaki. Ça aussi, il y avait une sorte de d'étrangeté totale dans ces romans au long cours, et de pas forcément m'y repérer, et tout en ayant plaisir à y chercher mon chemin, quoi.
Jeune, étiez-vous plutôt penché vers les mots ou les chiffres, ou les images, parce qu'on va voir que c'est vos trois piliers, ou autres. Enfin, peut-être aucun, peut-être les... Ou
non, non,
ou
alors...
À la fois.
Je sais plus comment... C'est un peu compliqué de faire un exercice biographique, je me sens pas... J'ai pas beaucoup de recul. C'est sûr que j'étais, au fond, pas très littéraire, étrangement. Et j'ai suivi en fait des études scientifiques.
On en parlera tout à l'heure.
J'ai fait, enfin, avant des études scientifiques, j'étais au lycée en sciences, en option sciences, etc. Mais parce que je crois que j'avais pas spécialement l'imagination qui m'aurait fait dire que c'était là que je trouvais du secours, disons, dans les mots. Les mots avaient plus à voir avec une sorte d'intimité un peu clandestine. C'était les mots, c'était la voix dans ma tête, quoi. C'était les choses que je me racontais. Mais c'était pas la vraie vie. La vraie vie, c'était les études, c'était les sciences, c'était sérieux.
Et le fait que vous ayez fait un bac S, ça a pas été influencé par vos parents? Dans le fond, parce que ça joue souvent à ça, quoi.
Ouais, très concrètement, non. C'est-à-dire que jamais on m'a dit que c'était ça que je devrais faire. Mais je pense que c'était dans l'environnement, dans l'écosystème, c'est un mot à la mode, l'écosystème. Ben voilà, c'était un peu comme ça, c'est des familles où quand on est ni bon ni mauvais dans toutes les matières, enfin quand on est plutôt un bon élève, on va plutôt vers les sciences, quoi, parce que c'est là qu'il y a des débouchés, comme on dit. Donc effectivement, je ne me suis pas beaucoup posé de questions, et je pense que ma famille s'en posait pas non plus beaucoup. Enfin voilà, c'était la voie. J'ai fait des études, j'ai fait bac S, j'ai fait après prépa scientifique, une école d'ingénieur. Enfin, j'ai suivi, voilà, sans que je m'y sente vraiment à ma place, mais sans même que je réalise que ça pouvait être une question de me sentir à ma place. Voilà, je le faisais parce que c'était comme ça, quoi. Enfin, et c'est plutôt après coup, quand j'ai commencé vraiment.
On va le voir, on va arriver au premier travail.
Oui.
C'est une épopée à la lire. Attendez, excusez-moi. Oui, les musiques, alors, ou films, par exemple, dans la jeunesse.
Alors, la musique a quand même assez vite eu une part importante chez moi, parce que, notamment liée à mon grand frère, qui était batteur, qui faisait de la batterie, et puis après, qui a été ingénieur du son, enfin, qui a beaucoup travaillé dans le son. Et qui a été évidemment de 4 ans mon aîné, comme ça une grande figure au-dessus de moi, et je me suis mis à jouer de la basse sur ses conseils, me semble-t-il, en tous les cas dans l'idée de jouer avec lui, ce qui est arrivé au bout d'un moment, ce qui a été un grand plaisir, une grande formation chez moi. Donc la musique a toujours été très 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 présente, aussi comme un refuge, c'est vrai. Mais là-dedans, les mots, les premiers mots sont peut-être quand même liés à la musique, parce que je jouais dans des groupes adolescents, et j'essayais de placer des petits poèmes, quoi, des petits, en me disant que ça ferait des paroles de chansons, etc. Mais c'était pas un succès, voilà, surtout pas. Mais il y a quelque chose qui est quand même venu de l'oreille, quoi. Le fait de faire de la musique, d'être en recherche de chansons, de chants, et ben, les mots sont venus plutôt de ce côté-là, plus que les livres, c'est ça que je veux dire.
Et le cinéma,
ça a toujours été très présent, notamment sous l'influence de mon père, qui m'emmenait quand même régulièrement au cinéma, tout à la fois pour voir des blockbusters un peu idiots, mais très, très plaisants, ou les premiers films que je me souviens qu'il m'avait emmené voir Fantôme à vendre, quand j'étais petit, ou les films de Tati. Alors, quand on est petit, je me souviens que mon père était mort de rire au cinéma, puis moi je comprenais pas exactement ce qui le faisait rire, mais quand même ça compte. Et puis les Hitchcock, et puis c'est là que j'ai découvert les cinémas du quartier latin. Enfin, cette idée qu'il y avait aussi une sorte de vie secrète du cinéma, une vie parallèle.
Vous avez le droit d'aller au cinéma tout seul?
Après, oui, ça j'ai pris ça. Et puis, oui, voilà, oui, le cinéma aussi, voilà, c'est je pense que voilà, ce qui m'a guidé vers l'écriture vient finalement peu de la littérature au départ, il vient plus de la musique et du cinéma. Il y a des films qui m'ont véritablement donné envie d'écrire, en fait. Des films d'Hitchcock. Enfin, voilà, je me souviens très bien du jour de mes 18 ans. C'était une sortie avec mon père pour mes 18 ans. Alors c'est symbolique, on s'en souvient parce que c'est les 18 ans, mais il m'a emmené voir La maison du docteur Edward d'Hitchcock, et je me suis jamais remis de ce film, quoi. Mais je pense qu'il y avait une sorte de d'effervescence qui était liée à l'anniversaire, qui était liée au cap des 18 ans. J'étais à ce moment-là en prépa scientifique, quand même, en sentant que j'y étais pas très bien. et donc de sentir qu'il y avait cet appel là de d'autres choses, de l'art, quoi, d'une forme de sensibilité qui n'était pas tellement mise en avant dans mes études, ou favorisée ou autorisée dans mes études. Ça a été pour moi un moment assez ou disons rétrospectivement, c'est peut-être comme ça que je le lis, mais en tous les cas assez fondateur, quoi, de sentir qu'il y avait là quelque chose qui m'interpellait, qui m'appelait, qui me fascinait, et donc qui me façonnait aussi, quoi, qui venait toucher à quelque chose chez moi de beaucoup plus profond que mes études scientifiques.
Vous avez passé un bac S, puis prépa scientifique à la Canaan à Lassau, une école d'ingénieurs à Paris, l'Institut supérieur d'électronique, et après un mois de période d'essai, vous rompez le contrat. Pourquoi cette expérience générale ? Pourquoi pas une autre ? Pourquoi la science ?
Bah justement, je crois par peut-être par atavisme aussi. Mon père est ingénieur. Je crois que par manque d'imagination, je savais pas qu'on pouvait avoir peut-être d'autres aspirations que celles-là. Enfin voilà, je vous dis, j'étais un élève plutôt correct. Ça se faisait, voilà, de faire des études scientifiques. C'était la voie sûre, quoi. Il y avait une sécurité. Bon, et puis c'est vrai que c'est quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, c'était un CDD et il y avait un mois de période d'essai. Et c'est à la fin de la période d'essai que je suis allé voir mon patron pour lui dire vraiment, j'ai beaucoup de doutes sur le fait que ce soit vraiment ça, que je me destine à ça sur l'ensemble de ma vie, sur l'échelle. Enfin. Est-ce que, tant que c'est des études, tant que c'est scolaire, je sais pas, il y a des échéances courtes, il y a un examen.
Et lui, il était satisfait de vous ?
Je crois, enfin, en tout cas, il n'avait pas à se plaindre de moi.
Quoi, mais, il vous a non, pas non, exprimé de...
Non, mais il a eu cette phrase un peu, qui devait être une phrase pour me rassurer, puis qui, moi, m'a fait partir assez vite. Il m'a dit, en fait, Cyril, tu sais, il y a peu de gens qui aiment vraiment leur métier. Mmh. Et en fait, on le fait, on s'en contente, quoi. Et je me suis dit, zut, je suis trop... Enfin, je sais pas, non, c'est pas ça. Enfin, j'ai envie d'aimer ce que je fais, quoi, ou de faire ce que j'aime. Enfin, je... Et donc, non, j'ai pas envie à 23 ans, je sais pas quel âge j'avais, 24 ans, de me dire que je renonce déjà, quoi, et que je me contente d'un métier, parce qu'il faut avoir un métier. Enfin, et j'ai envie d'être animé par ce que je fais, quoi, et d'être... Donc voilà, donc c'est là que j'ai effectivement... Enfin, je sais pas. Après, il faut peut-être un peu. Peut-être que je le romance dans ma tête, mais voilà, un peu comme dans certains films.
Ouais, de façon, le passé, il est toujours écrit.
Voilà. C'est... Mais où on voit les gens qui prennent l'ascenseur, puis qui reviennent plus jamais sur leur pas.
Vous faites alors un DEA en sociologie des médias à l'Institut français de presse. Pourquoi ? Alors là, aussi, c'est quand même. Ça prend du temps, quoi, aussi.
Ouais, ça
ne se fait pas un petit stage de 8 jours, quoi.
Non, mais c'est vrai. Alors, j'ai eu la chance, quand même, de pouvoir continuer des études. Et par vous voyez par réseau aussi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a ouvert à la sociologie, qui s'appelle Sabine Chalvon de Mercey. J'ai travaillé pour elle au départ plutôt parce que j'avais des compétences d'ingénieur. Il s'agissait de l'aider à construire des tableaux Excel et des bases de données. Et puis au fond, petit à petit, j'ai lu des livres qu'elle me conseillait, où il y avait des livres sur la table, où j'ai essayé de comprendre sur quoi elle travaillait. Et là, j'ai aussi découvert qu'un livre contient non pas des réponses, mais de nouvelles questions aux questions que je n'osais pas me poser, ou des formulations à des questions qui amenaient d'autres questions, puis qui amenaient. Enfin, et là, ça a été une période très très formatrice. Et qui fait que je me suis orienté après en DEA, effectivement, à l'Institut français de presse. Et je crois que j'aurais pu rester étudiant toute ma vie à ce moment-là. c'est vrai que c'est voilà, un enrichissement dans les études que je n'avais pas connu dans mes études scientifiques, où au fond... pourtant, c'est très riche, hein, quand on fait prépa scientifique et tout, il y a du... Il y a du jus de cerveau, hein. Enfin, ça mouline, c'est compliqué, c'est abstrait. Mais j'avais pas cette exaltation de sentir quelque chose qui s'éclaire, quoi. Quelque chose qui s'éclaire sur des... Et puis qui va éclairer, plus ça s'éclaire, plus il y a des ombres qui se créent, et plus voilà, plus il y a de la lumière qu'on recherche. Enfin voilà, tout à coup, ça a été...
Après, vous travaillez au Fiche du cinéma Vous pourriez nous dire quelques mots de votre appétence pour le cinéma? Quand est-elle venue? Ben, ça, vous l'avez dit.
Voilà, ça, c'est vrai. Alors, c'était la même période, hein, le moment où j'ai travaillé en sociologie, les études, etc. C'est le moment aussi.
Ah, je pensais que c'était après.
Non, c'était un peu dans le même brouillon, justement. Qu'est-ce que je fais? Je quitte la voie qui était tracée d'ingénieur. Et je me cherchais, hein, je me cherchais. Comme on cherche aussi souvent, mais peut-être aussi plus jeune, là j'avais déjà 25 ans, 23, 25 ans. Et les Fiches du cinéma, c'est une association bénévole qui existe depuis 1934, que certains auditeurs peut-être ici connaissent.
Expliquez pourquoi.
Parce qu'ils ont une émission qui s'appelle Longtemps je me suis couché de bonheur, animée par Francis Gavel et Thomas Fouet, donc le samedi matin, si je ne dis pas de bêtises. Et donc j'y suis arrivé avec pas grand chose, si ce n'est une envie d'écrire sur le cinéma. C'était déjà, il y avait l'envie de cinéma et l'envie d'écrire qui était, comme je vous le disais, quand même.
C'est des textes critiques.
Et c'était des textes critiques. Et alors là aussi, ça a été une formation incroyable parce que j'allais voir, au minimum un film par jour, des films que je serais jamais allé voir spontanément tout seul, parce que c'est l'idée d'une revue, c'est qu'il faut, notamment cette revue-là, elle a le principe de voir tous les films qui sortent, ça en fait beaucoup.
C'est pas les cahiers du cinéma.
C'est pour ça qu'on est assez nombreux. Et de les voir tous et de les critiquer tous de la même façon, c'est-à-dire d'avoir le même espace. C'est pour ça que ça s'appelle les fiches du cinéma, c'est que ça a la forme d'une fiche, disons synthétiquement. Donc ça oblige à aller voir donc tous les films, pour soi à aller voir des films qu'on serait pas, qui sont pas forcément dans nos goûts préétablis, donc de se laisser aussi surprendre, de se laisser, enfin d'être déçu parfois évidemment.
Et comment est fait la répartition pour chacun aller voir les films?
Alors ça c'est quand même beaucoup la charge de notre rédac chef. À l'époque c'était Jean-Christophe Bergeon, puis Nicolas Marcadet, qui m'a beaucoup poussé aussi dans l'écriture. Et le fait de au fond de voir un film et de devoir après écrire dessus, et de devoir écrire dessus avec à chaque fois le même calibrage de mots, c'est-à-dire le même espace, bah ça oblige à regarder le film pour ce qu'il est. On peut pas se contenter de dire ce film est un navet, et puis ou de faire une critique où au fond où c'est l'écriture du critique qui prime, on se fait plaisir, on fait des jeux de mots pour dire que ce film est nul, enfin ça oblige à réfléchir, surtout les films qu'on n'a pas, sur lesquels on ne sait pas quoi dire, parce qu'ils nous parlent pas, ou parce qu'on les juge boursouflés, ou parce que on estime qu'ils appartiennent à une vision du cinéma qui est pas la nôtre, parce qu'elle serait peut-être plus commerciale ou plus tape à l'œil, ou et donc voilà, ça oblige vraiment à je pense que c'est une position que j'ai aussi acquise à ce moment-là, face à une œuvre d'art, que ce qu'elle soit cinéma ou autre, c'est-à-dire la regarder pour ce qu'elle est, réellement. Pas pour ce que nous on y projette, pas pour ce que l'environnement peut nous en dire, mais vraiment regarder et se dire, qu'est-ce que ce film veut nous dire? Et est-ce qu'il y arrive? Et quelle chance je lui donne pour écouter ce qu'il a à me dire?
Il n'y a jamais de critique négative.
Alors, donc si, bien sûr, mais dans ce cas-là, il faut
la justifier.
Il faut la justifier. Voilà, il faut pas en rester juste à un jugement de goût et de valeur. C'est, je trouve que c'est un exercice de d'accueil. On peut accueillir, on peut être négatif, mais en sachant dire pourquoi c'est un film nous rebute, ou pourquoi on estime qu'il est malaisant, dangereux, enfin je sais pas, enfin ou qui véhicule des valeurs qui correspondent pas à ce qu'on voit. Mais il faut quand même l'entendre pour ce qu'il est, quoi.
Depuis quand écriviez-vous avant la publication de L'univers visible et invisible, sorti en 2014 aux éditions Lamourier, votre premier livre, ou est-ce votre premier texte fini que vous avez directement fait paraître?
Donc, je crois que j'ai beaucoup appris à écrire. Donc, Les Fiches du cinéma, c'est quelle année? C'est 2002. J'ai dû arriver en 2002 aux Fiches du cinéma. Et donc, L'univers visible et invisible, j'ai terminé de l'écrire en 2010, je pense, à peu près.
Ah oui, il est sorti 4 ans avant de le publier.
Mais je crois que c'est 2012 la sortie. Mais je,
non, 2014, c'est marqué. C'est sa biographie. La bibliographie,
vous c'est ma biographie officielle. J'espère que je ne me suis pas trompé. Bon. Bref, donc je dirais qu'il y a une dizaine d'années, c'était dans ma tête pour simplifier, une dizaine d'années pendant lesquelles j'ai surtout écrit sur le cinéma je pense que j'ai appris à écrire avec les fiches du cinéma, grâce à cette astreinte de l'écriture sur les films dont je parlais avec ce calibrage.
Si 2012,
c'est 2012, hein,
c'est fourni et
faut. Je me suis trompé, vous voyez, faut que je corrige, mais faut que je corrige ma bibliographie. Zut. Et donc c'est ça, je pense que c'est à peu près 10 ans pendant lesquels écrire en fréquentant des films m'a donné envie d'écrire tout court, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais.
Mais est-ce que vous aviez là d'autres manuscrits à part celui-là?
Et en fait, non. En fait, c'est le premier. C'est le premier livre que j'ai écrit, vraiment, sans avoir du tout l'ambition d'écrire un livre. C'était juste aller au bout, je crois, de quelque chose qui m'animait. Mais c'est-à-dire, qui m'animait depuis longtemps. Je vous disais, même quand j'étais ado, que j'écrivais ces petits textes pour des chansons, etc. Mais sans que je sache tout à fait m'autoriser à le regarder en face, à me dire, allons-y, essayons, écrivons. Et donc c'est passé par une forme de discipline, d'autodiscipline, qui a consisté à écrire tous les matins, une heure avant d'aller bosser. Sans jamais me dire que j'allais écrire un livre, un truc, enfin, juste... Qu'est-ce que ça produisait chez moi d'avoir comme ça une heure d'écriture quotidienne, et ça a débouché sur un premier roman.
En 2015, vous rentrez dans le groupe Emma Sound Group. Pouvez-vous nous parler de cette expérience qui dure toujours, et vous avez un rendez-vous à donner, je crois, aux auditeurs à ce sujet?
Tout à fait. Rendez-vous jeudi prochain, 19, à la Dame de Canton, à 19h30. Dame de Canton, c'est une très belle jonque sur les bords de la Seine, au pied de la BNF.
Et c'est à quel métro?
C'est alors c'est quoi le métro? Quai de la Gare.
Quai de la Gare.
Ouais. Qui s'appelait avant la Guinguette Pirate.
D'accord.
Et qui est un lieu où j'allais beaucoup, que je fréquentais beaucoup adolescent. Et donc je suis très heureux maintenant d'y jouer moi avec ce groupe. Donc en tant que bassiste, on a parlé de la basse tout à l'heure, j'ai continué à faire de la musique.
Expliquez ce groupe.
Et donc c'est un groupe qui existe autour d'une chanteuse, compositrice, interprète, qui s'appelle Emma Sand, de son nom de scène, et de sa rencontre avec le guitariste qui s'appelle Frank Johannes. C'est un peu eux deux, les deux piliers du groupe depuis les débuts. Et donc ça fait effectivement depuis 2015 que je suis à leur côté, que je les
accompagne. Vous êtes rentré une année après que le groupe se soit formé.
Oui, c'est ça, à peu près, je crois. Il y a eu d'abord une phase à deux, puis enfin bref, il y a eu des musiciens qui se sont agglomérés, qui sont repartis. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, et puis j'y suis toujours. J'ai de la chance. Et on suit un peu notre petit bonhomme de chemin. On multiplie les expériences de sur scène. Et là, on a un premier album qui sort le 20 octobre, donc c'est-à-dire vendredi prochain. 10 titres qu'on a enregistrés patiemment là depuis un an à peu près. Et c'est une musique très très inspirée de la musique américaine. Emma est, je crois, très 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 proche dans la sensibilité de personnes comme Patti Smith, comme P.G. Harvey, Neil Young, Nick Cave. Enfin, c'est cet esprit-là, disons. Mais aussi nourrie, je crois aussi, elle aussi, Franck le guitariste aussi, comme moi, de cinéma, de...
Elle chante en anglais, je crois.
Et elle chante en anglais
c'est ce que j'ai cru entendre.
Avec des tentatives en français. Mais peut-être qu'on va entendre un morceau, mais qui sera en anglais. Mais avec quelques tentatives en français aussi. Mais effectivement, c'est plutôt sa langue, c'est plutôt l'anglais. C'est sa sonorité, c'est son... mais parce que tout de suite, c'est aussi porteur d'un imaginaire et d'une projection spatiale. Moi, j'aime bien quand la musique, elle se traduise en espace, quoi. Et c'est un peu notre ambition avec cette musique-là, d'essayer de créer des paysages sonores, quoi. Mais qui passent quand même par le chemin de la chanson. C'est quand même des chansons. C'est quand même des formes un peu courtes, un peu ramassées, mais
Là, on va passer un morceau là, de ce groupe-là. Mais avant, je crois que vous avez d'autres rendez-vous à donner aux auditeurs pendant que j'y pense.
Ah oui,
on oublie toujours.
C'est gentil. Oui, c'est vrai que j'avais. Alors, tout à coup, je réfléchis. Oui, l'autre rendez-vous, bah, c'est autour du livre dont on va parler tout à l'heure, là, qui s'appelle Et puis viennent les hommes, et puis viennent les femmes. C'est le mardi 14 novembre, ce qui s'appelle les mardis littéraires, qui ont lieu au Café de la Mairie à Saint-Sulpice, à Paris, place Saint-Sulpice, qui est une rencontre qui existe depuis plusieurs décennies, qui est très ancrée dans le. Voilà. Et donc, on a la chance d'être invité avec les éditions Lunatique, avec deux autres auteurs de la maison. Charlotte Monégier, qui a écrit un livre qui s'appelle Ma plaie d'Asie. Et Jérôme de Neubourg, qui a écrit un livre qui s'appelle Qui a peur d'Annie Ernaux. Ce sont des livres qu'on a chacun écrit dans notre coin très différemment. Et qui, en fait, étonnamment. Mais c'est peut-être pas si étonnant que ça, se rejoignent sur, sinon des thèmes, au moins une sensibilité commune autour de la question du corps, de la maternité, etc.
Vous écoutez l'émission Des mots, une voix, excusez-moi, de Thierry, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter par écrit au 145 rue Amelot, à la librairie Publico, dans le 11e arrondissement à Paris. Musique Erwan. Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi la contacter par courrier au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris, à la librairie Publico, émission Des mots, une voix. En première partie d'émission, nous avons eu la partie biographie avec Cyril Latour. Olivier Appert n'a pas pu venir et s'en excuse auprès des auditeurs et auditrices, il est cloué au lit. Mais j'aimerais juste dire un petit quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que le premier morceau qu'on a écouté avant de commencer l'émission, juste après le générique, c'était un groupe qui s'appelle High Duty Orchestra. C'était le disque You You qui vient de sortir, une production de Cheikh Chouka, et le titre était Sen Olassin Urgut, fait par Dratrad et Sylvain Dupuis. Je voulais le dire parce qu'il faut dire ce qu'on passe.
C'est important,
ouais. Pour les auditeurs, si ça les intéresse de se procurer le disque, ils peuvent se le procurer. Là, il doit être en vente. Faut me taper production de Cheikh Chouka, High Duty Orchestra. Alors là, après avoir eu des questions biographiques, on va passer au livre « Et puis viennent les femmes, et puis viennent les hommes », sorti aux éditions Lunatiques de vous, Cyril Latour. Comment vous est venue l'idée de ce texte ?
Vaste question.
Première fois.
Je crois qu'en fait, c'est un texte que j'ai commencé il y a une dizaine d'années. Dans l'idée d'une petite récréation, de me dire que j'allais essayer d'écrire quelque chose d'un peu court, mais dans l'idée aussi, puisque c'est un texte qui a la particularité d'être double, et puis il s'appelle « Et puis viennent les hommes, et puis viennent les femmes », et c'est au fait deux récits en tête bêche, en quinconce, quoi. Le livre se prend d'un côté ou de l'autre. Et on peut commencer. En fait, il y a deux couvertures, quoi. Voilà. À la radio, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais voilà.
Essayez d'expliquer justement sa particularité.
Il y a
même nombre de pages de chaque côté,
voilà.
Et ça se retrouve au milieu.
C'est ça. Et les deux histoires se rencontrent au milieu. Donc physiquement, il y avait en tous les cas dès le départ l'idée de ce recto verso, de travailler comme ça sur un récit qui puisse, on pourrait ne pas choisir le début, commencer d'un côté ou commencer de l'autre.
Oui, mais par exemple, vous l'avez choisi sur la tranche du livre.
Alors ça, par contre, oui.
Ça commence par « Et puis viennent les femmes ».
Oui.
Alors moi, j'ai une question. La première phrase que vous avez écrite, ça concernait les hommes ou les femmes ?
C'est une bonne question. C'était les hommes.
Ouais. Les hommes ?
Oui.
Voilà, moi, j'ai d'abord lu les hommes.
D'accord.
Et après, j'ai lu les femmes. Naturellement, je ne peux pas vous dire pourquoi. Et j'ai trouvé que ça allait mieux.
Eh ben,
est-ce que c'est une idée reçue ?
Ben non, en fait, c'est ça. Alors, c'est ça qui me plaît depuis que le livre est sorti et que j'ai quelques retours de lecture. C'est que j'ai l'impression que quel que soit le chemin par lequel on le prend, j'ai des lecteurs qui m'ont dit qu'ils ont commencé par les femmes, par la partie « Et puis viennent les femmes », d'autres qui ont commencé comme vous et au fond comme moi, par « Et puis viennent les hommes ». Et qu'en fait, chacun a une lecture qui est différente.
Et ceux qui ont commencé à apparaître, puis viennent les femmes, qu'est-ce qu'ils ont comme lecture ?
Certains. Non, mais en tout cas, ils se sont fait un chemin qui fonctionne aussi, avec des interrogations. Parce qu'au fond, les deux récits, donc en fait, parlent d'une rencontre sur un ferry, qui va de Calais à Douvres. D'un côté du point de vue de la femme, de l'autre côté du point de vue de l'homme. C'est vraiment une histoire très simple, une rencontre. Je voulais aussi quelque chose de le plus épuré possible. Et puis avec cette idée de temps suspendu, de la traversée. Donc tout ça, c'était en germe dans les premiers mots. Et puis j'avais juste cette idée au fond, presque comme une contrainte, mais qui est, comme on le sait, les contraintes qui donnent l'impulsion, d'avoir la première phrase. Je savais qu'il y aurait « Et puis viennent les hommes » pour une des parties, et de l'autre côté, ça commencerait par « Et puis viennent les femmes ». Mon cahier des charges, quoi. Bon, c'était pas aussi clair que ça, mais voilà. Et voilà, et ce qui me plaît, c'est de sentir que personne, au fond, dans les gens qui le lisent, n'a exactement la même expérience.
C'est bien, ça.
Et même moi, puisque j'ai commencé par un bout, de toute façon, en l'écrivant, je l'ai écrit de façon linéaire.
Bah oui.
Même moi, je ne peux pas avoir l'expérience de ceux qui le lisent en commençant par l'autre côté. Puisque j'ai Bon, bref. Ça m'intéressait. Ça m'intéressait aussi dans l'idée du livre, parce que, donc, contrairement à ce que j'ai commencé à raconter dans ma biographie, depuis, je suis quand même devenu, je pense, assez lecteur. J'ai un grand plaisir à lire. Et notamment le roman, qui a cette forme fermée. La magie du roman, c'est l'effet clôture, quoi. C'est qu'à la fin, ce soit terminé. Il y a une forme, un objet qu'on peut totalement saisir par le début, la fin, le milieu. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est clos. Et quand on lit, j'aime beaucoup le cheminement de la lecture. C'est-à-dire que quand on est à la page 10, on n'est pas le même qu'à la page 50, qu'à la page 60. Et que le lecteur qu'on est devenu page 60, il est nourri de ce qui s'est passé à la page 10. Mais que le lecteur de la page 10, il anticipe celui qui sera page 60. Enfin,
il y a toujours une sorte... anticipe, c'est dur, hein, parce que c'est un peu des surprises, il y a même un suspense.
Oui, mais quand on lit un livre, quoi, je trouve qu'il y a toujours quelque chose... Au-delà du plaisir qu'on a à lire une histoire, à suivre une écriture, etc., je trouve qu'il y a ça dans une progression.
Une progression, voilà.
Et là, ce qui m'intéressait aussi, parce qu'il y a aussi quand même souvent la tristesse quand on termine un livre, d'arriver à la dernière page et de refermer la quatrième de couverture et de se dire, bon, c'est fini.
On est content de la fin, là. Faut pas la révéler. Hein.
Faut pas la révéler, mais surtout...
on est content de la fin, non?
Ben, j'espère.
Ah, vous n'avez pas, les auteurs,
ah, oui, peut-être... Voilà, moi, je suis...
Mais bon, je trouve que c'est une belle fin, quoi.
Mais surtout, là, la fin, elle est au milieu. C'est ça qui me plaisait aussi. C'est-à-dire que quelque part, et puis même dans le... C'est pas juste une histoire de formelle, c'est-à-dire que moi, ce qui me plaît aussi dans un objet, que ce soit de la littérature, du cinéma, de la musique, c'est quand la forme n'est pas juste un procédé, mais qu'elle sert qu'elle précède quelque part ce qui est dit, ce qui est chanté, ce qui est vu, ce qui est... Et donc, voilà, ça me plaisait que cette histoire soit une rencontre dans ses prémices, et qu'en fait, le moment où peut-être l'histoire commencerait vraiment, c'est-à-dire le moment où il y a rencontre, c'est la fin du livre. Mais en même temps, c'est le milieu du livre. Et en même temps, donc peut-être...
Oui, non, c'est aussi... Ils se sont déjà rencontrés, ils se sont croisés à un moment.
Bien sûr.
Mais ça, faut pas le dire.
Mais voilà. Disons que c'est...
Il y a déjà eu quelque chose entre eux.
Il y a déjà eu quelque chose.
On peut dire ça, quoi. Ça part pas de rien.
Ça part pas de rien, mais...
C'est pas deux gens qui vont au hasard sur la planète et qui se rencontrent à la fin.
Non.
Ça, c'est déjà arrivé, mais c'est pas ça du tout.
Non.
Ils se connaissent, quoi.
Oui, ils se reconnaissent.
Enfin bon, ils ont un rapport entre eux, quoi.
Ouais.
C'est pas deux inconnus. Je vais quand même poser mes questions parce que je vois que l'heure tourne.
Pardon,
quand même.
Non,
mais expliquez, c'est très intéressant, puis ça m'évitera d'en reposer parce qu'il y en a qui regrouperont. Pourquoi ce titre? Pourquoi êtes-vous passé du singulier dans le livre au pluriel dans le titre?
Oui. D'abord, il y avait quand même cette petite gageure personnelle de me dire au moins j'ai ma première phrase pour chacune des parties. Donc, et puis viennent les hommes, et puis viennent les femmes.
Vous auriez pu dire, et puis vient l'homme, et puis vient la femme.
Voilà, ça c'est vrai. Après, là c'est... Alors, j'espère qu'il y a quand même une cohérence dans l'histoire, mais au fond c'est peut-être un choix un peu... Enfin, un souhait un peu naïf
d'universaliste.
Voilà, de tout auteur.
C'est ce que j'ai pensé.
C'est ça. De tout auteur, se dire que son personnage, ou ses personnages, ils portent quelque chose d'un peu plus grand qu'eux-mêmes, quoi. Je crois que c'était ça. L'idée, tout en étant très attentif à accompagner mes personnages, à être vraiment avec eux, donc pas du tout dans une grande approche théorique, les hommes, les femmes, etc. Au contraire, d'être très très au plus proche, au plus intime de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils voient, d'où ils sont, mais voilà, que le titre lui-même est quelque chose qui appelle à une plus grande lecture, quoi.
On peut rassurer les auditeurs, s'il faut les rassurer de ce côté-là, c'est pas un essai.
Non, c'est pas un essai. Mais au fond, c'est mon tout premier roman, ça, vous l'avez dit tout à l'heure, ça s'appelle « De l'univers visible et invisible ». Il y a quelque chose d'un peu ronflant déjà dans un titre comme ça, et qui fait un peu essai, or c'est un roman. Donc voilà, je crois que c'était peut-être aussi un peu un goût pour ça. Ouais.
Ce livre, est-ce que c'est une histoire d'amour, un hymne à l'amour?
Oui, mais peut-être pas dans le sens romantique du terme. C'est parce qu'au fond...
Il y a une fibre sociale.
Il y a une fibre sociale dans le...
J'ai une question là-dessus après.
Ouais, alors peut-être qu'on y reviendra peut-être après. Sur l'amour, en tous les cas, vraiment, enfin, sur la rencontre, c'est-à-dire, je crois que c'est ça que j'ai voulu faire, cette espèce de temps de dépouillement dans lequel chacun, par lequel chacun passe avant, puisqu'il y a déjà un premier moment où ils se rencontrent, puis la vraie rencontre, elle a lieu au centre, donc à la fin, pour ceux qui ont compris, du livre. Et avant ça, il a fallu se dépouiller. Il me semble que c'est ça. Et ce dépouillement...
Il a fallu souffrir aussi.
Bah, oui, réveiller des choses en soi, revenir sur ce qu'on a vécu, se traverser, voilà. C'est aussi le motif du ferry, traverser. Et donc c'est pour ça que je vous dis de l'amour, c'est peut-être pas forcément l'amour romantique, parce qu'au fond, on ne sait pas bien ce personnage, cet homme et cette femme. Voilà, ils se reconnaissent pour quelque chose que je laisse peut-être un peu dans le flou. Chacun peut aussi un peu se raconter son histoire, mais c'est qu'en fait ils se reconnaissent, ils se voient en fait. C'était ça qui m'intéressait. C'est qu'enfin ils sont regardés et ils regardent enfin. Et ça pour moi c'est ça l'amour, mais vraiment au sens très très large du terme, au-delà de la question de l'amour romantique, de l'amour amoureux. Enfin voilà, c'est cette capacité à pouvoir regarder l'autre et accepter d'être regardé de lui.
La jeune femme dessine dans ce livre au début. Elle est dans un navire. Est-ce son gagne-pain ou est-elle sur ce navire pour autre chose? Nous le saurons vite.
Oui. Effectivement, on comprend. J'espère que cette femme, elle a bourlingué un peu. Et avec une vie un peu faite de différentes choses, pas toujours très cohérentes, mais ce qui reste comme un fil conducteur, c'est le fil de son crayon, de son carnet. Elle dessine. Et avec cette idée qui est propre souvent aux gens qui ont comme ça une expression artistique, qu'en fait on dessine toujours son autoportrait. Enfin voilà, de même qu'on écrit toujours plus ou moins sa biographie. Enfin, son autobiographie, voilà, il y a quelque chose de ça, c'est que son fil rouge, c'est une quête d'elle-même, à travers beaucoup de voyages, à travers beaucoup d'aventures. Et donc, elle est dans ce ferry, elle va prendre ce ferry pour y travailler, en tant que dans le service d'hygiène et d'entretien, c'est-à-dire plutôt en bas de l'échelle du ferry. Mais, voilà, elle a son carnet pour dessiner.
L'homme vit dans une sorte de brouillard, entre guillemets. Qu'en pensez-vous? Et pouvez-vous nous parler de cette sensation que j'ai ressentie?
De brouillard?
Oui.
Oui, ça c'est quelque chose qui est
entre guillemets, je mets parce que...
Bon, non, mais c'est quelque chose qui me va bien, parce qu'au fond, je crois que c'est quelque chose qu'on me dit souvent de mon écriture, et je crois que c'est...
Comme s'il était mal réveillé, comme s'il avait pris des drogues, on ne sait pas trop, quoi.
Oui, je crois qu'il est un peu...
Il avait pris un coup sur la tête.
Il est un peu sans contour, en fait, je ne sais pas. Il est...
Hors de lui, inexistant, présent, plein de choses, quoi.
Il flotte, quoi. Il trouve pas tout à fait son ancrage, et il s'endort un peu dans ce ferry, il rêvasse, hein. Et cette femme vient s'asseoir en face de lui et le dessine. Et donc, en fait, dans ce dessin, c'était un geste...
Mais il dort pendant ce moment-là.
Il dort, ouais. Mais... quelque part, elle lui donne un contour. C'est quelqu'un qui manque de contour, qui manque de... Il n'est pas... Je ne sais pas comment dire. Il n'est pas... Je fais des gestes qu'on ne voit pas à la radio.
Ça provoquera une scène, même. Ouais. Le fait qu'il la dessine, le dessine.
Tout à coup, elle le regarde, et lui, il ne comprend pas ce regard. Il ne comprend pas... Mais je crois que c'est ça. C'est un personnage qui est un peu vaporeux. Et souvent, je crois, quand je vois ce que j'ai écrit, mes personnages sont un peu vaporeux. Et je sais pas bien d'où ça vient, si ce n'est peut-être un truc tout à fait qui a l'air anecdotique, mais qui l'est peut-être pas. C'est que je suis quelqu'un d'assez myope. J'ai jamais vu très clair. En tout cas, si j'ai pas mes lunettes, je vois flou. Et en fait, j'aime bien aussi écrire dans le flou. Enfin, ça a l'air d'être peut-être à côté de la plaque, hein, ce que je raconte. Je sais pas, mais en tout cas, je crois que mes personnages sont écrit dans le flou, quoi. Ils manquent de forme.
Ben alors, j'ai deux questions, je vous les pose d'un seul coup, et après j'en ai d'autres, mais on les fera pas. Vous répondez en quelques mots, d'accord? Okay. On n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'on dise quelques mots du livre de poésie et la préface.
Bien sûr, bien sûr.
C'est quoi un coup de foudre, entre guillemets? Est-ce qu'il y a un côté social dans ce roman, en particulier dans la description de métier dur, entre guillemets?
Ouais.
Coup de foudre et social.
Le coup de foudre, encore une fois, voilà, pour moi, il ne se pose pas tellement sur la question romantique, amoureux, hein, mais c'est-à-dire vraiment c'est plutôt cette question de la rencontre, le moment où on perçoit que l'autre nous regarde et nous, on est dans ce regard promis à exister. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça l'essence d'une rencontre. Et donc, accepter d'être enfin regardé, d'être enfin vu et de soi-même de voir. Mais voilà, ça dépasse peut-être pour moi un peu la question du coup de foudre amoureux. Et la question sociale, oui, elle est présente. C'est pas le cœur du texte, mais elle est présente aussi parce qu'on parlait de ce personnage masculin un peu vaporeux, un peu évanescent. Elle est présente parce que le personnage féminin, qui nettoie le bateau, elle est invisibilisée, si je puis dire. Et elle joue aussi de ça, du fait qu'on ne la remarque pas. Et bien, voilà. Donc c'est peut-être là qu'il y a une question.
Non, mais il y a aussi histoire d'horaire. Ils ont des horaires
ont
durs,
des horaires.
Par exemple.
Oui, ils partent tôt, ils se réveillent tôt.
Ça décale une vie, ça.
Ça décale une vie, et puis ils s'attaquent.
Mais tout.
Ils s'attaquent à la fange, enfin, ils nettoient le vomi, Enfin, voilà, ils ont quelque chose. Et en même temps, on les remarque pas, on les voit pas. Donc il y a ce fond-là, effectivement.
Ben, j'ai plein d'autres questions, j'en ai encore une demi-page, mais on va arrêter là. On va passer à... Voilà, on va vite passer à ça. Est-ce que le livre de poésie... Alors, lisez directement la préface, Cyril.
D'accord.
On ne dit rien de sûr, on laissera les auditeurs le découvrir.
Ok.
Et vous allez expliquer un peu la préface, allez-y.
Je peux dire que ça s'appelle Je veux dire.
Aux éditions
Jacques Brémond.
Sorti cette année, pas très peu de temps.
Et donc, la préface dit ceci. Dans le silence de sa lecture intérieure, quand l'œil, avant l'oreille, s'empare des mots, peut-être le lecteur sera-t-il ici surpris, dérouté même, de voir se dresser ces barres verticales qui tiennent lieu de ponctuation au présent texte. Qu'il se figure alors l'attitude du musicien, déchiffrant une partition, dont la lecture est comme... renouvelé, relancé en quelque sorte par la répétition des barres de mesure sur lesquelles, de note en note, glisse son regard. En notation musicale, les barres de mesure structurent la portée, matérialisent les cycles de temps, non pas rupture verticale freinant le mouvement horizontal de la partition, mais incises qui en révèlent la pulsation, en soutiennent la cadence. La barre de mesure n'est pas à la phrase musicale ce que le point est à la phrase grammaticale. Elle n'interrompt pas, ne clôt pas, au contraire, elle ordonne, rythme, rassemble, modèle la phrase selon son temps propre. Elle est liaison, elle est guide, elle est respiration. On se souvient qu'à la fin de la nausée, Antoine Roquenquin, accablé plutôt qu'attablé, dans un bistrot, écoute le standard de jazz « Some of these days » en formulant ce souhait « Chasser l'existence hors de moi » pour rendre enfin le son net et précis d'une note de saxophone. La musique est bien plus qu'un ornement de la vie. Elle est le mode d'être idéal, devenir note, devenir son, n'être plus que souffle. En s'en remettant au déroulement, au rythme, à l'agencement d'un air de jazz, Antoine Roquenquin conjurerait l'absurdité de l'existence, son absolue contingence. La musique seule justifie l'injustifié. Jean-Paul Sartre décrit la suite de la scène. La voix chante et dépose son secret à l'oreille de l'auditeur. C'est comme moi qu'il faut être. Il faut souffrir en mesure. Vivre, souffrir, certes, mais encore faudrait-il pouvoir le faire en mesure. L'écriture partage avec la musique une même éthique du souffle, comme le babillage de l'enfant. Elle cherche, dans le rythme et la respiration, à retrouver la discipline du son, l'origine du mot. Les ponctuations verticales du présent ouvrage sont la trace de cette quête. Figurant des barres de mesure, elles font d'une certaine façon le lien entre composition typographique et composition musicale. Tentative de faire entendre, dans le silence de la lecture intérieure, quelque chose de la voix muette des pages. Elles sont une invitation à lire en mesure. Donc c'est donc la... la petite note introductive à ce texte qui s'appelle « Je veux dire » et qui est donc effectivement rythmé par des barres verticales qui, d'un point de vue typographique, n'existent pas en français, mais qu'on appelle « pipe » en anglais. Et qui peuvent avoir quelque chose, effectivement, comme... Enfin, il faut, voilà, visuellement, quelque chose qui vient un peu heurter le texte et qui, en même temps, voilà, pour moi, sont en lien, comme je l'explique dans cette préface, avec la musicalité, la recherche. Je vous ai dit tout à l'heure que, effectivement, je crois que les mots, chez moi, sont venus d'abord par l'oreille, l'envie des mots. Et donc, voilà, essayez toujours d'écrire avec l'oreille, et donc de lire aussi en mesure, enfin voilà, d'avoir cette question-là.
Merci Cyril Latour. Alors on a eu l'émission avec Cyril Latour, la première partie biographie, la deuxième, et puis viennent les hommes, et puis viennent les femmes aux éditions Lunatique. On a lu la préface de Je veux dire, sortie aux éditions Jacques Brémond, les deux livres cette année. Si vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@gmail.com. Vous pouvez aussi contacter l'émission au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris, par courrier à la librairie Publico. Nous allons passer maintenant à un poème enregistré de Cyril Latour qui lit justement ce livre de poésie. Il est très long, il dure plus de 30 minutes, donc on le coupera à la fin pour Michel Polizzi qui va certainement venir faire son émission comme tous les dimanches. Et on coupera, donc je suis désolé, on n'en réinterviendra pas. Je suis désolé pour les auditeurs. Au revoir Cyril Latour, on dit au revoir aux auditeurs.
Au revoir, Cyril Latour. Oui, merci beaucoup.
Et musique Erwan.
Si discrètement qu'on finirait par s'en sentir, sinon responsable, au moins complice. On chercherait l'origine du malaise, en vain, comme ces journées où la sensation d'avoir oublié quelque chose est si limpide et entêtante qu'elle en efface la chose oubliée. on prêterait l'oreille. Rien n'a signalé. La voix jouerait la mélodie, respecterait la cadence, afflux des notes. Mais elle s'imposerait, la voix, dans une forme de nudité. Il y aurait de l'impudeur à l'écouter ainsi. On se sentirait voyeur par Louis. Alors, prêtez l'oreille à nouveau, tendre, attendre, que nous apparaissent enfin l'immobilité des doigts sur le théorbe, la fixité de l'archer au-dessus de la viole. Alors, on prendrait conscience, mais sans encore réussir à le définir. Pas tant un vide qu'une absence. Voilà. La musique, comme on le dirait d'un proche qui ne nous reconnaît plus, la musique a eu une absence. Mouvement de basse, du théorbe et de la viole. Mouvement continu et obstiné. Soutien qui contient. Mouvement révélé par son absence même. Stupeur rétrospective du geste suspendu. Profession de silence. Comme d'autres font, profession de foi. Mais, impatience, ma gorge ne peut plus me taire. Silence autre que mien. Mon silence, brisé par le tien, qui ne peut l'être. Alors, précipitation, mots emplissent bouche. Force, alors, jaillissement, ouverture, mots déchirent, afflux, alors, poussée du corps, hors du corps, langue, organes et paroles, dressés jusqu'à toi. Mais, manque le corps, mots cognés, écorce de silence. Ne serait pas celui qui parle. Le livre. Plainte. lamentation, clameur au-dedans. Mais, à ses lèvres, les mots ont goût de miel. Puis, 7 jours de stupeur et silence. Enfin, il se lève et parle. Mots de miel saignant la bouche. Se lève, parle, ne peut plus se taire. Ténèbres de terre, élevées en ramifications de clarté. La cour se rétracte sous le souffle de l'olivier. Imperceptiblement, pulsation de la sève, bas la mesure, imperceptiblement, de ton absence. Venir à lui, le tout premier mot, poumons asphyxiés, poussière divine, le tout premier homme, puis, lentement, poumons dégonflent, ventre se creuse, et, souffle des mots, parcours le monde, fais le monde, nommez le ciel et la terre, la lumière et les nuées, les oiseaux, les bêtes des champs, nommées jusqu'à la poussière qu'il a engendrée, le tout premier homme, qu'il engendre à son tour, l'homme. L'agneau est agneau, le loup est loup, l'arbre est arbre, le jardin, le fleuve, il y a tant à dire, les mots dressent chemin, embranchement, route, foyer, frontière, nation, l'or et or, puis l'ambre jaune et la cornaline, le pays d'Avila et celui de Couche, le nord. Il y a tant à dire, le sud, tant, les bras du Tigre et de l'Euphrate, entourant le pays d'Assour, l'est et l'ouest, à dire, les fleurs sauvages, le miel, le blé, l'encens, l'orge, la myrrhe, tant et tant, que le souffle se déploie au-delà du jour. Ne parvient à s'arrêter l'homme, ne peut plus se taire, nommer, même le silence, nommer encore, quinte de mots jusqu'au-delà du jour. L'invisible joue des mots, le monde fait allégeance. Tout ce qui existe a été nommé. Tout ce qui est nommé existera. Suffoque l'homme, s'étrangle l'homme. Mots accablent la gorge, saturent la bouche, mais sur la langue, la marque d'une conquête, souffle de vie. Mots arrachés à la poussière, aux entrailles, s'étourdit de son pouvoir, l'homme. Célèbre sa victoire, l'homme. Crache diamants et vipères, pierres précieuses et crapauds, indifféremment. en extrême douceur. De silence. Parlerai sous la colère, comme sous la torture. Mots dépassent pensée, débordent corps, hors de moi la colère. Afflux de mots, hors de moi, cadence, franchissent la langue, les mots s'en affranchissent. Mots, corps, corps, cri, mais manque. Le corps, cogné du manque contre écorce, contre ce qui continue, s'obstine, ce qui survit. Rien ne passe sinon le temps. Bourgeonnement de l'olivier suit son cours. Vers où la colère, vers qui? Rien ne passe, cours suspendu à ton geste. Vers toi, la colère, vers moi. Contre tout, la colère, jette la tête contre les mots. Recueille le tu de mes plaies. Corps manque, te veux, tant. Suspendu, peau à peau. Savions-nous, nous, nommer? Nous ne dit pas je. Peau à peau, langue inconnue, toi, déjà familière. Impatience, gorge nouée, libère mon souffle dans le tien. Te délivre dans ma bouche, tu m'emplis. Lèvres, lèvres gonflées de vie, m'enlève les mots de la bouche. Ta langue devient ma langue. D'une seule voix, nous, nous, taisons. Nous ne dit jamais, nous, se passer de mots. Joue l'épopée du bourgeonnement cellulaire. Puis, à son tour, ton corps se divise, se démultiplie. Longue nuit blanche. En réponse au aux nuits noires. Chair se fait chair, corps cri prolonge, nous ramifie. Puis, premier cri devient premier mot. Puis, ton nom. Ton nom balbutié d'une voix qui ne peut être adressée. Mais se régale de savoir te nommer. Langue maternelle, sitôt orpheline. Regard intérieur, précipité à l'extérieur. Jambes, mains, hanches, tournées, danser, hisser, caresser, pétrir, à partir de, autour de, l'image que tu te fais de ton corps. Prends corps. Projection de toi en toi, hors toi. Aucun son ne frappe ta bouche. Aucun mot ne parvient à tes oreilles. Mais tu entends ta voix. Qui est autre, qui est même. Inconnu, qui est toi. À travers, regard inconnaissable, qui est tien. Longuement, s'arracher aux rêves, bribes, te recomposer, lutte inégale, du jour contre tes nuits. Elles étaient trois, devant le tombeau, vide, lourde pierre, roulée sur le côté. Portez les aromates, les trois femmes, pour onction du corps. Mais manque le corps. Jeune homme, de blanc vêtu, attend. Elles étaient trois. N'ayez pas peur. La stupeur scelle leurs lèvres. Puis, elles s'enfuirent, il est écrit. Hors d'elles-mêmes, il est écrit. Et ne dire jamais rien. N'a personne. Peur qui t'agisse. Le rêve a gagné le corps. Mains te touchent, bras te hissent, jambes te précipitent, corps lâche prise. Puis, derrière la porte, ne t'entends plus. Puis, la porte, forcée, la
vide la pièce, vidée, le souffle par la fenêtre, grande la fenêtre, grande ouverte. Lève les yeux. Premier réflexe, lève les yeux, en haut, regardez, quelque chose, là-haut, s'est envolé, là-haut, par-delà, le ciel d'octobre. Mais, au sol, regardez, en bas, à même le sol, en bas, dans la cour, en bas, l'empreinte, l'ombre, en bas, regardez, l'ombre qui s'attarde, l'ombre qui ressemble, mais ressemble seulement à ton corps. Mon visage, index et majeur de l'adulte devant mon visage. Ciseaux improvisés. L'enfant a perdu sa langue. Jeu de dupe, feignant la naïveté du premier degré. Ma langue à mes pieds, coupée. Ce débat, encore frétillante, queue de lézard, en quête du corps amputé. Ma langue, jeu d'enfant. Puis, secret de l'adulte, maquillé en jeu d'enfant. Langue, à mes pieds, et bouche, sanguinolente. Noir de ces sons qui ne savent se faire mot. Ma langue perdue. Toi et moi, corps recroquevillé dans langue qui palpite. Voix ne peut se taire, mais ne saura jamais se faire entendre. Langues amputées se reconnaissent, se suturent.
Et il est 17h sur Radio Libertaire, 89.4 FM, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Michel Polizzi avec vous pour ce mélange qui suit donc des mots, une voix. Et qui va durer jusqu'à 18h30 et quelques, et puis on verra bien ce qui se passe après. Le numéro de téléphone du studio, le 01 43 71 89 40. On va commencer avec quelque chose d'ancien qui vient de ressortir sur le label Souffle Continu. Un album qui s'appelle Infractured Silence, le silence fracturé, qui a un drame musical instantané, Hélène Sage, Sema et Nurse with Wound. Et bon, on va écouter Nurse with Wound avec un morceau qui s'appelle, c'est écrit très 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 petit, j'ai pas mes lunettes, The Strange Play of the Mouth, Nurse with Wounds sur le mélange.
Because Yeah.